en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'année 2009 célébrait Charles Darwin, correspondant à l'Académie des sciences et père de la théorie de l'évolution. À l'occasion du 150e anniversaire de la publication de l'Origine des espèces, le Muséum national d'histoire naturelle accueillait le 21 septembre 2009 un cycle de conférences autour du biologiste anglais. Dans la retransmission que Canal Académie vous propose, Jean-Marc Drouin, historien des sciences et professeur au Muséum, anime une conférence intitulée « Géographie des plantes et évolution des espèces, de Candolle à Darwin ». Auguste Pyramus de Candolle est un nom qui ne vous dit rien, et pourtant le botaniste entré comme associé étranger à l'Académie des sciences en 1842 a répertorié à lui tout seul plus de 6000 espèces. Jean-Marc Drouin se plaît ici à confronter les travaux du fondateur de la géographie botanique, Auguste Pyramus de Candolle, à celui d'un autre académicien, l'éminent Charles Darwin. Pourquoi trouve-t-on telle plante à tel endroit et pas ailleurs? La loi du plus fort existe-t-elle aussi chez les plantes? Écoutons tout de suite Jean-Marc Drouin.
C'est fascinant de voir toute une institution comme le muséum qui se consacre à la recherche et à la diffusion et à la conservation, mobiliser ses forces. Et je vous invite à ce point de vue-là, à titre d'exemple, de voir les panneaux dans le jardin. Un jardin peut être aussi un moyen de transmission, un moyen d'expression de connaissances. Bien sûr, derrière ce que je vais dire ce soir, il y a le travail collectif de l'érudition, le travail collectif de la réflexion, de la critique philosophique, de la discussion entre scientifiques, de la collaboration entre les scientifiques, les historiens et les philosophes. Mais il y a aussi cette circulation d'idées et d'informations qui se fait entre les enseignants-chercheurs, les chercheurs en général, et les publics, des publics de formation, de culture très différentes, mais qui communiquent, qui écoutent les mêmes exposés, et les idées, les connaissances vont, viennent, circulent, se forment. Alors, je ne pourrais pas, à chaque phrase, à chaque citation, signaler que je la dois à tel ou tel collègue, à telle ou telle lecture. De ce point de vue, l'Internet est une aide formidable qui permet de simplifier la recherche bibliographique. Ça a d'autres inconvénients, mais ça gagne un temps fou pour les biblios. Voilà. C'était quelques remarques préalables et puis une toute petite remarque aussi sur les commémorations. J'avoue que l'année Darwin, on a eu l'année Linné, l'année Buffon. En 94, on avait eu l'année Lamarck. On peut se dire, on n'en finira jamais des commémorations, les 200 ans de la naissance, les 100 ans. Là, cette année, il faut dire l'ampleur du personnage Darwin. 200 ans de sa naissance, mais 150 ans de son ouvrage principal, et 200 ans de l'ouvrage principal de Lamarck. Donc il y a une sorte de coïncidence mnémotechnique rêvée. Et puis, plus profondément, s'il y a quelque chose à dire en faveur des commémorations, derrière le rituel qui peut faire sourire, c'est un petit peu comme, vous savez, pour déplacer un poids, si 10 personnes tirent, mais tirent pas en même temps, le poids peut ne pas avancer. Et il y a des chansons de travail, il y a des interjections, is et oh, is, qui font que toutes les forces s'exercent au même instant. Et qu'à ce moment-là, elles peuvent déplacer l'objet. C'est ce qu'en jargon savant, on appellerait un effet de synergie. Eh bien, je crois que les commémorations ont cet aspect. Et entre autres, je rentre là dans le sujet d'aujourd'hui, maintenant, après ces préambules, de rapprocher des auteurs très connus, Darwin étant l'un des quelques savants avec Pasteur, Marie Curie, Einstein, dont pas tout le monde, mais le plus grand nombre a entendu parler, et puis les Candolle, qui, rassurez-vous si vous ne les connaissiez pas avant de voir l'affiche, sont très peu connus, très connus des spécialistes, les botanistes connaissent tous les Candolle, mais les publics, les autres scientifiques même, ne connaissent généralement pas, à moins de cas particuliers, historiens de la vie intellectuelle de Genève, historiens de la période 1800, les décennies qui précèdent et qui suivent l'année 1800. Mais en règle générale, on a des personnages, deux personnages, le père et le fils, Augustin Pyramus de Candolle, et Alphonse de Candolle, qui semblent sortir de l'oubli, un petit peu comme ces ombres que Achille évoque dans Homère et qui surgissent de l'oubli des enfers où ils étaient, en quelque sorte, enfin des enfers païens. Leur prénom, déjà, surprend. Pyramus. Qu'est-ce que ce Pyramus ? Alors, Augustin Pyramus, le père, ne sortait jamais sans son tiret et se faisait appeler vraiment Augustin Pyramus, voire quelquefois Augustin Pyram. Le fils n'avait Pyramus que sur sa carte d'identité. Mais nous avons préféré les mettre, puisque c'est l'usage, et commencer par signaler cette différence. Différence qui est peut-être révélatrice d'une différence de caractère entre les deux hommes. Nous pourrons y revenir. C'est aussi la question du caractère et des personnalités, de la psychologie en histoire. Mais le troisième personnage, le premier en fait, est lui donc très connu, Charles Darwin. Lors de mon voyage, je lis les premières lignes. Les premières lignes d'un livre, on sait l'importance. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Bon. Lors de mon voyage à bord du navire Le Beagle, en qualité de naturaliste, j'ai été profondément frappé de certains faits relatifs à la distribution des êtres organisés qui peuplent l'Amérique méridionale et par les rapports géologiques qui existent entre les habitants actuels et les habitants éteints de ce continent. Alors voilà le portrait de Darwin et le portrait du bateau. Rappeler sa biographie, j'hésite à le faire, mais disons en deux mots, il est d'une famille de médecins. Son grand-père était médecin, Erasme Darwin, en même temps poète et naturaliste, personnage truculent, très dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, tout à fait pré-victorienne. Son père était un homme plus effacé, plus sérieux, moins truculent que son grand-père. Il est lié par des relations de cousinage et par le mariage avec la famille Wedgwood, les manufacturiers de poterie, ce qui lui assurera une indépendance. Finalement, il a commencé des études de médecine. Il s'est évanoui en voyant une opération. Il faut dire que c'était sans anesthésie à l'époque. Il a dit non, je ne serai pas médecin comme mon père et mon grand-père. Alors, que vas-tu faire, mon fils ? Lui ont dit ses parents. Devenir pasteur. Vous savez qu'on a défini l'église anglicane de cette époque comme cette institution qui assurait la présence d'un gentleman dans chaque paroisse du pays. C'est un peu réducteur, mais il n'était pas très motivé, ni pour ni contre la religion anglicane, mais il y voyait le moyen de vivre en étant indépendant à la campagne, donc en pouvant faire beaucoup d'histoires naturelles. Et puis, le capitaine d'un bateau qui devait faire le tour du monde en faisant des relevés géographiques et topographiques et hydrographiques, le Beagle, Her Majesty's Ship, le Beagle, le prend comme naturaliste à bord. Alors, il y avait déjà un naturaliste, mais il en fallait un deuxième. Bon, je passe sur les détails. Toujours est-il qu'il va, pendant 5 ans, voir les richesses de l'océan. Il s'intéressera de cette façon aux récifs de corail, mais également, lors des escales, les fossiles et les formes vivantes, et de manière patente, le fait qu'on ne trouve pas les mêmes espèces animales et végétales dans les différents lieux. Ça, c'est vraiment le point. Il le dit dès les premières lignes. Les rapports géologiques qui existent entre les habitants, c'est les vivants qui habitent, la grande parenté du vivant. Les habitants actuels et les habitants éteints de ce continent, c'est les espèces vivantes qui vivent sur le continent sud-américain, qui est là le mieux observé. Et donc, la parenté entre l'existence de formes vivantes qui ont disparu et dont on cherche un lien avec les formes vivantes, c'est l'aspect de l'évolution qu'on connaît le mieux. Si vous parlez au grand public de l'évolution, il va penser dinosaures, il va penser tout ça. Mais la distribution dans l'espace n'est pas moins importante que la succession dans le temps. Et la distribution dans l'espace, c'est ça, la distribution des êtres organisés qui peuplent l'Amérique méridionale. Voilà, il y fait allusion. Complémentarité donc d'emblée de la biogéographie et de l'évolution des espèces. Voilà pourquoi j'ai voulu confronter Darwin avec deux des grands tenants de la biogéographie, géographie des plantes, puisque la biogéographie comprend un volet pour les plantes, un volet pour les animaux, et l'importance que Darwin accorde aux deux candoles, aux deux personnes qui s'appellent candoles, et les positions des candoles à l'égard de l'évolution. Alors évidemment, Augustin Pyramus étant mort en 1841 et l'origine des espèces étant parue en 1859, nous ne saurons rien de la position du premier candole sur Darwin. Vous voyez, il y a déjà une dissymétrie. Mais par contre, nous aurons sa position sur Lamarck. Alors, les débuts de la géographie des plantes. Oui, ça ne paraît pas évident. Je parle de géographie des plantes, je parle de biogéographie. Alors, le terme biogéographie, qui est assez explicite, hein, bio, vivant, géographie, la géographie des vivants, n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle. Mais quand il apparaît, il y avait déjà des décennies que les naturalistes faisaient de la géographie des organismes vivants. Le premier à cet égard était Linné. Linné, on l'a commémoré en 2007, c'était les 300 ans de sa naissance. On le voit avant tout en lui, celui qui a donné les règles et qui a donné l'exemple de l'application de ces règles, de nommer, classer, décrire les animaux, les végétaux et les minéraux, les trois règnes de la nature. Les principes de la classification, certes, mais je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler d'autres fois. Une partie de ces règles est toujours pertinente. Le principe de cette classification est ce qu'on appelle artificiel. C'est-à-dire c'est un classement qui est commode, qui permet de ranger, mais qui ne permet pas de déduire de l'appartenance à un groupe la possession de propriétés. Si on dit qu'une plante a 6 étamines, la seule chose qu'on peut en déduire, c'est qu'elle a 6 étamines. Tandis que si on dit qu'une plante a 2 cotylédons, on peut en déduire des tas de choses sur la manière dont se disposent ses nervures, la structure de sa tige et tout. Donc on a là un choix de classification où les choix faits par Linné ne sont plus tout à fait ceux des naturalistes postérieurs. En revanche, si nous ne classons plus les plantes et les animaux tout à fait comme Linné, nous les nommons comme Linné. Et vous les nommez. Lorsque vous dites qu'il y avait une émission hier sur l'Homo sapiens, Homo sapiens, c'est un binôme linéen, c'est-à-dire un couple de... Si vous hésitez chez le fleuriste entre Ficus benjamina, qui est bien avec ses petites feuilles, mais peut-être que pour l'appartement de vos amis, le Ficus elastica serait mieux avec ses grandes feuilles, vous utilisez le nom de genre, Ficus, et les épithètes, benjamina, elastica, etc. Donc ça, cette nomenclature, ce code de désignation, il est toujours actuel. Et puis Linné, donc qui apparaît, je ne développe pas plus, comme le modèle du naturaliste, classificateur, descripteur, nomenclateur, a donné aussi une vision de l'équilibre de la nature dans lequel interviennent des notions de biogéographie. Puisque c'est lui qui insiste sur le fait qu'on trouve dans les montagnes de Laponie, même à une altitude très faible, des plantes qu'on trouve dans les Alpes à des altitudes beaucoup plus fortes. Et sous une forme mythique, qui est intéressante dans le mélange de mythe et de science, il imagine ce qu'était le paradis terrestre pour que toutes les espèces puissent s'y trouver. Le paradis terrestre devait être une montagne sur une île sous l'équateur. C'est le seul moyen d'avoir au sommet les sapins et les myrtilles de haute montagne et des pays froids, et en bas des bananiers, des cocotiers, etc., de pays chauds. Donc, cette connaissance de l'étagement de la végétation, elle était déjà présente chez Linné. Mais disons que la géographie des plantes ne constituait pas une discipline définie en tant que telle, c'était plutôt, comme on dirait maintenant, un programme de recherche. D'autre part, le monde de Linné est un monde dans lequel aucune espèce n'avait disparu, où toutes les espèces présentes au premier matin du monde dans le jardin d'Éden, supposées telles, étaient encore parmi nous, avec nous. C'est une vision qui, dès la fin du XVIIIe siècle, est radicalement invalidée, radicalement caduque, dépassée, réfutée, y compris par quelqu'un comme Cuvier ou quelqu'un comme Humboldt, qui n'admettent pas encore la transformation, mais qui admettent la disparition d'espèces. Alors, celui qu'on cite en général comme le fondateur de la géographie des plantes, mais je n'ai pas voulu rentrer dans la querelle de priorité, savoir si c'était plus lui ou plus Candoll. L'important, c'est qu'en 1805, puis plus tard en 1820 pour Candoll, enfin, dans ces deux premières décennies du 19e siècle, on a non plus seulement des intuitions, des perspectives ouvertes, comme avec Linné, mais on a véritablement la constitution d'une discipline qui est branchée, recueille l'héritage, est branchée sur l'ensemble du réseau conceptuel des sciences naturelles et qui en même temps est l'occasion de recherches propres, spécifiques, qui par beaucoup de côtés, mais ce n'est pas l'aspect que j'envisagerai aujourd'hui, annonce ce qui s'appellera un siècle plus tard écologie. Alors, Alexandre de Humboldt était un naturaliste, un physicien, géographe. Pour certains, il est le frère de Wilhelm de Humboldt, le grand linguiste. Pour d'autres, de formation littéraire, c'est Alexandre de Humboldt qui est le frère de Wilhelm de Humboldt. Et quand on est historien des sciences, on essaye de s'abreuver aux deux sources. Et donc, c'est un couple de frères. L'un linguiste, historien de l'art, diplomate, Wilhelm de Humboldt, qui connaissait de quantités de langues anciennes, qui a fait tout un travail, qui a même fait un peu de terrain linguistique en allant étudier le basque au Pays Basque et qui a vécu à Paris quelques années. Et puis Alexandre, qui est le géographe et qui va parcourir, accompagné d'un naturaliste et médecin français, Aimé Bonplan, l'Amérique, alors espagnole, et va battre le record d'altitude. Et ce qui est la planche, c'est l'une des nombreuses illustrations de la description qu'il rapporte de ce voyage américain. Ce voyage américain qu'on peut comparer à l'expédition d'Égypte, sauf qu'il est pacifique, là où l'expédition d'Égypte est liée à une pénétration militaire, et il est radicalement novateur dans le rapport du terrain à la collecte, à la mesure, et il est l'affaire de deux hommes, là où l'expédition d'Égypte est l'affaire de 150 savants embarqués. Mais l'expédition d'Égypte a d'autres aspects, une autre ampleur. L'idée n'est pas de mettre en concurrence les expéditions, mais de montrer comment cette initiative individuelle, il engloutit la moitié de sa fortune personnelle dans cette affaire, renouvelle profondément les sciences, et en particulier les sciences géographiques. Aux naturalistes, ils demandent d'étudier comment ont voyagé les plantes. Non seulement leur répartition, oui, je l'ai déjà signalé à propos de Linné, le fait le plus connu, le plus massif de la répartition des plantes, c'est la répartition selon l'altitude. Quiconque est allé dans une montagne des Alpes, dans le midi de la France, par exemple, a vu qu'au fur et à mesure qu'on monte, les espèces végétales se substituent les unes aux autres. Et qu'on n'en trouve pas les mêmes plantes à 1000 mètres, à 500 mètres ou à 1500 mètres. Mais on ne trouve pas non plus les mêmes en allant vers le nord, la Laponie, ou en allant vers le sud, en Andalousie. Et on ne trouve pas non plus les mêmes dans des lieux qui ont pourtant le même type de climat, mais qui sont éloignés. En Amazonie ou au Gabon, en forêt tropicale humide, on ne trouvera pas les mêmes espèces, ni même, dans une grande mesure, les mêmes genres. Donc là, c'est la piste principale. Mais Humboldt en suggère une autre, qui est d'étudier les voyages qu'ont effectués ces plantes. Les formes caractéristiques des végétaux et des animaux que présente la surface actuelle du globe ne paraissent avoir subi aucun changement depuis les époques les plus reculées. L'ibis enfoui dans les catacombes d'Égypte, cet oiseau dont l'antiquité remonte presque à celle des pyramides, est identique avec celui qui pêche aujourd'hui sur les bords du Nil. Ce qu'on aurait pu s'attendre à trouver, c'est qu'en voyageant ainsi, les formes se sont transformées. Eh bien non, Humboldt ne saute pas le pas. Pour lui, des formes ont disparu, des formes se sont déplacées d'un continent à l'autre, mais elles ne se sont pas proprement transformées. Et il prend parti du côté de Cuvier. Voilà, un jeu à quatre, si on peut dire. Lorsque Étienne Geoffroy Saint-Hilaire revient d'Égypte avec des ibis, des crocodiles, des chats, divers animaux momifiés, et ses collègues du muséum les examinent. la CEPED, Lamarck et Cuvier font un rapport sur ce qu'a rapporté leur collègue
Geoffroy Saint-Hilaire.
Mais ils en tirent des conclusions différentes. Ils sont obligés de constater que les momies en général d'animaux donnent des formes identiques aux formes actuelles. La CEPED et Geoffroy ne se prononcent pas vraiment, en tout cas pas à ce moment-là, mais Cuvier exulte, triomphe. Dit, vous voyez, il n'y a pas de transformation, ce sont les mêmes que des formes du temps des pharaons, sont les mêmes que les formes actuelles. À quoi Lamarck, qui défend depuis 1800, son cours d'ouverture en 1800, une première théorie de l'évolution, dit, mais c'est rien, c'est 5000 ans, c'est 4000 ans. À l'échelle de la Terre, c'est hier. Donc là, il y a un débat passionnant qui a été très vif, qui a été apporté par ces objets rapportés d'Égypte. Et Humboldt, qui connaît bien Cuvier, qui est ami de Cuvier, bien qu'il n'en partage pas du tout le conservatisme social et le conformisme religieux, il est à l'opposé de ces idées-là, mais en revanche, les deux hommes s'apprécient sur le plan humain et sur le plan scientifique, se retrouvent dans une même méfiance vis-à-vis de la recherche des origines. Humboldt dit « La première origine des choses ne peut être ni un problème d'histoire, ni un objet de recherche pour un naturaliste. » Alors, curieusement, on retrouve la même méfiance à l'égard de la recherche des origines chez Augustin Pyramus de Candolle. Alors, j'ai appelé un fixisme paradoxal. Pourquoi ? Parce que on va voir que de Candolle va apporter de l'eau au moulin de Darwin, pour le dire simplement, alors que lui-même ne s'oppose pas à Darwin, puisque ses idées ne sont pas encore exprimées, mais s'oppose à Lamarck. La relation à Lamarck est d'ailleurs plus compliquée qu'une simple opposition. Alors Augustin Pyramus de Candolle, il est issu d'une famille protestante de Provence, des nobles provençaux, qui se sont réfugiés au moment de la Réforme à Genève, et c'est l'ancêtre de ce temps-là qui portait ce prénom qui devait être dur à porter, de Pyramus. Et que dans la famille, par piété filiale, on donnait à l'aîné des garçons, qui ensuite le portait ou ne le portait pas. Mais finalement, Augustin Pyramus de Candolle, je crois que ça l'amusait, et puis ça le distinguait de son père, qui se faisait appeler Augustin tout seul. Il se passionne pour la botanique dès son adolescence, et il herborise dans le Jura suisse. Dans ses herborisations, il utilise la flore française de Lamarck. La flore française de Lamarck, c'est une innovation qu'a produit Lamarck en 1778, donc 22 ans avant l'énoncé de son cours sur l'évolution, à une époque où il n'était pas du tout question pour Lamarck de parler d'évolution. Mais en revanche, Lamarck avait mis au point une méthode de détermination, cette méthode que vous avez encore, si vous connaissez les flores de Bonnier ou la flore de Blais. La série de questions qui vous dit fleurs groupées, fleurs isolées, fleurs avec pétales soudées, fleurs avec pétales détachées, etc. Et à la fin, fleurs bleues avec des petits piquants sur la tige, fleurs ne présentant pas ces caractères, et hop, vous avez le nom. Eh bien, cette suite de dichotomies, de questions à deux réponses, cette clé dichotomique, c'est Lamarck qui l'a mise au point dans la flore française. Augustin Pyramus de Candolle était à Paris et il souhaitait rentrer en contact avec ce Lamarck dont il admirait tant la flore. Alors, il a usé d'un petit stratagème. Il avait assisté à des séances de l'Institut, donc il savait, il connaissait la tête de Lamarck, il connaissait de vue, mais il n'est jamais rentré en contact, bien entendu. Il était un petit jeune homme. Lamarck était déjà une personnalité. Et il avait repéré qu'il allait dans un restaurant après les séances de l'Institut. Donc il va dans le même restaurant avec un ami complice et pendant tout le repas, il dit « Oh oui, pour herboriser la flore de Lamarck, il n'y a pas mieux, heureusement que je l'avais. » Et l'autre est en train de manger tout seul à côté et d'entendre les deux jeunes gens faire l'éloge de son livre. Alors à la fin, il n'y tient plus, il dit « Je suis Lamarck. » Alors le contact est établi, il explique qu'il vient de Genève, Lamarck lui confie un livre à rendre à un collègue de Genève et tant et si bien que 7 ans plus tard, sort une nouvelle édition de la flore de Lamarck, révisée par de Candolle, puisque quand l'éditeur dit à Lamarck pour la énième fois « Il faudrait mettre à jour votre flore, Elle a 20 ans, 22, elle va avoir 25 ans. Il y a des nouvelles espèces, il y a des changements de nom. En plus, les conquêtes des guerres du directoire et du consulat ont changé les frontières. Donc, une flore de la France, ce n'est plus tout à fait les mêmes régions. Eh bien, la marque dit, bon, bah, si vous y tenez, il dit à son éditeur, confiez le travail à ce jeune botaniste genevois. Il a l'air très brillant, il fera ça très bien. Ceci dit, les rapports ne sont pas restés toujours aussi bons. Et lorsqu'en 1820 paraît dans le Dictionnaire des sciences naturelles, dirigé par Frédéric Cuvier, le frère de Georges Cuvier, la notice Géographie botanique, qui est confiée à De Candolle, il organise, il donne à la discipline un véritable cadre théorique, une armature de concepts dont certains sont encore d'actualité. Je ne prendrai qu'un exemple. De Candolle propose d'appeler endémiques des genres ou des espèces ou des familles qu'on ne trouve à l'état naturel que dans une région du globe à l'exclusion des autres. C'est un terme qu'il emprunte au langage médical, qui parle beaucoup d'endémie. En ce moment, on parle de pandémie, les épidémies. Bon, l'endémie, ça existait. Il change un peu le sens pour insister sur le fait que l'espèce est présente. Elle n'est pas forcément très répandue, mais elle est présente dans une région et seulement dans cette région. Il propose d'autres concepts, en particulier la distinction de la station et de l'habitation. La station de la salicorne est dans les marais salés, celle de la renoncule aquatique est dans les eaux douces et stagnantes. L'habitation de ces deux plantes est en Europe, celle du tulipier dans l'Amérique septentrionale. Donc vous voyez, en quatre lignes, le sens du raccourci, puisqu'on a deux problématiques. Une problématique qu'on appellera plus tard écologique. Dans quel biotope, dirait-on maintenant ? Dans quelle station, disait-il ? Dans quel milieu, pourrait-on dire, pour simplifier et vulgariser? Alors, la réponse, c'est pour la salicorne dans les marais salants. Pour des plantes qui vivent sur des rochers, ça sera sur les rochers, ça sera un sol siliceux, ça sera en forêt, ça sera des mauvaises herbes, soi-disant mauvaises herbes, c'est-à-dire des plantes spontanées et non souhaitées dans les cultures, etc. On définit un milieu. En revanche, quand on dit que l'habitation, alors on a gardé station, on n'a pas gardé habitation. On dira la région, on dira l'air, on dira la patrie, chez certains vieux auteurs. L'habitation de ces deux plantes, donc la salicorne et la renoncule aquatique, est en Europe. Le tulipier, en Amérique septentrionale. Donc, comme l'avait dit un collègue, Jean Gaillon, qui avait résumé cet article, c'est la distinction du milieu et du lieu, d'une certaine façon. Candolle distingue une vingtaine de régions, et très curieux, c'est la différence de taille entre ces régions. L'Australie est une région, la Sibérie est une région, mais les Canaries sont aussi une région. Ce qui prouve que ce n'est pas uniquement une question de taille, même pas essentiellement, mais de plantes caractéristiques. C'est la liste des espèces, c'est la flore qui est caractéristique. Et une analyse parallèle serait à faire pour la zoologie. Elle a été faite par les zoologistes un peu en retard dans ce cas-là sur les botaniques. Ne croyez pas que je veux suggérer que la botanique va toujours de l'avant et la zoologie la suit. Il y a bien des cas où ça a été l'inverse, dans le cas de l'anatomie comparée au début du 19e, dans le cas du cladisme et tout, c'est parfois les innovations théoriques sont venues souvent de la zoologie et ont été reprises par la botanique. Mais l'un et l'autre cas se présentent aussi souvent l'un que l'autre et il serait non seulement inutile mais stérile de faire une compétition des deux disciplines. Lorsqu'il a défini ces régions, lorsqu'il a défini l'endémisme, lorsqu'il a défini la station, il en vient à un point fondamentale du point de vue qui nous concerne ce soir, la compétition, la lutte pour la vie. Toutes les plantes d'un pays, toutes celles d'un lieu donné, sont dans un état de guerre les unes relativement aux autres. Toutes sont dotées de moyens de reproduction et de nutrition plus ou moins efficaces. Les premières qui s'établissent par hasard dans une localité donnée tendent, par cela même qu'elles occupent l'espace, à en exclure les autres espèces. Les plus grandes étouffent les plus petites, les plus vivaces remplacent celles dont la durée est plus courte, les plus fécondes s'emparent graduellement de l'espace que pourraient occuper celles qui se multiplient plus difficilement. Alors cette nature en guerre évoque la lutte féroce de tous contre tous dont parlait déjà Linné. Ça évoque aussi Malthus. Et on s'est demandé pourquoi Darwin avait dû chercher dans Malthus ce qu'il avait trouvé, et il le signale dans De Candolle. Parce que Darwin connaît ce passage, nous y reviendrons. Est-ce que Malthus a écrit ça un peu avant De Candolle? Donc peut-être a-t-on supposé, y a-t-il eu une influence de Malthus sur De Candolle? Il est vrai qu'en 1816 et en 1819, De Candolle a fait deux voyages en Angleterre et qu'à l'un des voyages, il a rencontré Malthus. Mais c'est une rencontre qui ne semble pas l'avoir marqué beaucoup. En tout cas, il la développe peu dans ses souvenirs. En revanche, il a eu comme professeur de philosophie à Genève un physicien et philosophe, Pierre Prévost, qui est en français le premier traducteur de l'essai On Population de 1798 de Malthus. Donc là, voilà un domaine ouvert à l'investigation érudite. Mais ce sur quoi je voudrais m'attarder un instant, c'est sur le rôle que joue cette compétition entre organismes dans la distribution spatiale des végétaux. Il y a un mécanisme complexe, puisque ça n'est pas la compétition qui empêche les bananiers de pousser en Laponie. C'est une impossibilité physique, en quelque sorte. Il y a une physiologie de la plante, il y a des conditions physiques du milieu et il y a des présences impossibles, sauf bien sûr à mettre dans une serre et donc à créer un milieu artificiel. Certaines plantes ne peuvent pas vivre dans certaines localités, dit De Candolle, parce qu'elles ont besoin de certaines circonstances, on retrouve un terme lamarckien, d'ailleurs circonstances, qui ne s'y trouvent pas. Par exemple, une certaine quantité d'eau ou de lumière. Mais parmi les plantes qui peuvent pousser en un même lieu, il en est qui prospèrent plus que les autres, et c'est là qu'intervient la compétition. Candolle donne l'exemple d'une plante telle que le carex des sables, Carex arenaria, capable d'étouffer ses voisines dans un terrain sablonneux, mais qui, dans un terrain compact, sera à son tour étouffée par les mêmes espèces si elles sont présentes. Donc tout dépend du terrain, et là on retrouve une idée dont se souviendra Darwin, et qui donne lieu à toujours à beaucoup de malentendus sur l'évolution. Un organisme n'est pas plus adapté, plus perfectionné, plus ceci, plus cela, en soi. Il l'est toujours relativement par rapport à un terrain. Et la lutte pour la vie n'est pas cette grande compétition justificatrice d'autres concurrences et métaphores de systèmes sociaux ou autres, c'est l'adaptation à des circonstances données d'un organisme donné. Et celui qui est plus fort dans la lutte pour la vie dans un milieu X sera dans un autre milieu Y moins fort. Alors, que pense-t-il de Lamarck? En fait, frustration, le mot de Lamarck n'apparaît pas. Lorsque De Candolle critique le transformisme lamarckien, il dit « on n'a dit que ». Certains ont prétendu que, mais il n'emploie pas. Mais malgré tout, la critique qu'il développe est assez claire. Il critique les générations spontanées, qu'il juge incompatibles avec le fait que de nombreuses plantes ne se rencontrent pas à l'état sauvage dans des pays où les circonstances leur sont pourtant favorables. Le deuxième point, c'est que des végétaux qu'on a transportés, là on retrouve l'argument humboldtien, on transporte des végétaux d'un pays dans un autre, ils ne se transforment pas. À ce point de vue-là, l'acclimatation au sens fort du mot ne se produit pas vraiment. Quand on a des plantes exotiques qui poussent dans nos jardins, c'est parce que dans leur pays, elles poussaient en montagne, par exemple. Elles étaient dans un pays chaud, mais en altitude, donc dans un climat froid ou des choses comme ça. Mais on n'a jamais convaincu une plante de pousser dans un climat radicalement différent de celui où elle est née. Le troisième point est l'impossibilité d'une création de nouvelles formes par hybridation, puisque les plantes parentes de l'hybride ne se trouvent pas ensemble. Le troisième point est l'impossibilité d'une hybridation. Donc, finalement, quel est le point commun de toutes ces critiques ? C'est que De Candolle interprète Lamarck comme donnant toute puissance au milieu de modeler le vivant. Finalement, on peut penser que si De Candolle refusait Lamarck, c'est qu'il s'en est fait une image d'un mécanisme et non pas d'une dynamique du vivant. Curieusement, pourquoi fixisme paradoxal ? C'est que ce fixisme ne va pas empêcher Darwin de s'inspirer. Darwin, admirateur critique d'Augustin Pyramus de Candolle. Alors admirateur, eh bien, dans l'origine des espèces, il se réfère, lorsqu'il parle de la lutte pour l'existence, à De Candolle l'aîné et à Charles Lyell. Tous deux, dit-il, ont démontré avec leur largeur de vue habituelle que tous les êtres organisés ont à soutenir une terrible concurrence. Voilà la phrase exacte. Et Lyell, dont on voit le portrait maintenant, était le plus grand géologue de l'époque et un des soutiens de Darwin dès le départ, bien qu'il ne partage pas ses idées non plus. Vers la fin de sa vie, il se ralliera au point de vue darwinien. Mais disons, c'est une autorité et c'est une autorité qui soutient Darwin. Darwin reprend ce que Darwin doit à la géographie des plantes pour l'élaboration de sa théorie, ne se réduit pas à l'empreinte du concept de lutte pour la vie, aussi important soit-il, mais c'est toute la problématique de la distribution des êtres organisés à la surface du globe, et en particulier l'endémisme. Darwin utilise Candolle, comme il utilise toute la géographie des plantes, pour montrer que si le vivant a une géographie, c'est qu'il a une histoire. Lorsqu'il montre les espèces de l'Amérique du Sud ont plus de ressemblances du point de vue de leur structure avec celles de l'Amérique du Sud tempérée qu'avec celles de l'Afrique, il dit « Ces faits dénotent l'existence de quelques liens organiques intimes et profonds qui prévaut dans le temps et dans l'espace, dans les mêmes étendues de terre et de mer, indépendamment des conditions physiques. » Je ne développerai pas, mais je fais allusion au pinson qu'il avait observé au Galapagos. La géographie des plantes est pleine, et des animaux, est pleine d'exemples du même type. Les îles ont joué un rôle, on les a appelées souvent depuis les laboratoires de l'évolution. Un archipel réalise une coexistence de conditions expérimentales légèrement différentes, et l'histoire du peuplement de l'archipel se lie à travers les petites différences d'adaptation et de structure des organismes. Donc, le lien qui prévaut dans le temps et dans l'espace, c'est tout simplement l'hérédité, dit Darwin. Les affinités anatomiques entre les espèces d'une même région du globe s'expliquent par une origine commune, et les différences proviennent de la sélection naturelle qui, en s'exerçant dans des milieux divers, a favorisé des variations également diverses. Finalement, là où Candolle voyait un mystère, au-delà des frontières de la science, Darwin repère un problème dont la solution conforte sa théorie. Et alors, pour faire un retour de l'érudition, parce que ces textes sont connus, un texte moins connu, c'est lorsque Darwin traite des orchidées et de la fécondation des orchidées en 1862. Texte beaucoup moins connu que l'origine des espèces, mais où il y a la métaphore du bricolage, au sens que François Jacob donnera à cette expression, et également la question des organes rudimentaires. Là, je fais une petite digression par rapport à la géographie botanique. C'est plutôt de la question d'anatomie et de morphologie. Mais vous savez que des oiseaux qui ne volent pas ont cependant des ailes. Et de même, des plantes à sexe séparé présentent des étamines, l'organe mâle, rudimentaire, qui n'ont rien de fonctionnel, mais qui sont, dit Darwin, comme les lettres. Ça, c'est une image qu'il avait déjà utilisée en 59, comme les lettres qui ne s'entendent pas dans un mot, mais qui signalent l'étymologie. Les organes rudimentaires comme témoins d'un état, comme vestiges d'un état passé. Et alors, il critique De Candolle. À une époque peu éloignée, les naturalistes apprendront avec surprise, peut-être avec mépris, que des hommes sérieux et instruits admettaient autrefois que ces organes sans usage ont été créés à part et disposés à leur place respective comme des plats sur une table. C'est la comparaison qu'a employée un naturaliste distingué par une main toute puissante pour compléter le plan de la nature. Et effectivement, en 1819, De Candolle écrivait « Tous ces organes inutiles existent par une suite de la symétrie primitive de tous les organes. Et loin que leur existence soit un argument contre l'ordre général de la nature, elle en est au contraire une des démonstrations les plus piquantes et dont les conséquences mériteraient le plus d'être analysées ici, si cette discussion n'appartenait pas davantage à la métaphysique qu'à l'histoire naturelle. » Donc, en quelque sorte, il y a tellement une notion de plan de la nature, de plan organisé, de plan de construction de chaque organisme, que si la symétrie n'était pas respectée, s'il n'y avait que les organes utiles, eh bien, un créateur, auquel nous savons pourtant par ses textes personnels que De Candolle ne croyait pas, donc un ordre de la nature, aurait rajouté une symétrie, un organe qui ne sert à rien d'autre qu'à l'aspect esthétique. En quelque sorte, comme ces architectures ou des fausses fenêtres rétablissent la symétrie de la façade, bien qu'on ne voit rien à travers. De Candolle ne devait pas être enchanté de sa propre comparaison, et il aurait sûrement été sans réponse vis-à-vis de la critique de Darwin, mais nous ne pouvons pas imaginer à sa place faire de l'histoire-fiction et imaginer ce qu'aurait dit Augustin Pyramus. En revanche, nous pouvons voir ce que dit son fils, Alphonse de Candolle. Alphonse de Candolle est l'auteur, en 1855, d'une géographie botanique raisonnée, qui est une magistrale synthèse, un peu injuste pour ses prédécesseurs, mais qui ne l'est pas, en disant « La géographie botanique va devenir autre chose qu'une simple accumulation de faits et elle va prendre une belle position dans le centre des sciences. Pour cela, elle doit avoir pour but principal de montrer ce qui, dans la distribution actuelle des végétaux, peut s'expliquer par les conditions actuelles des climats et ce qui dépend des conditions antérieures. » Donc, là, vraiment, il est admis complètement que la nature a une histoire. Mais cette histoire de la nature, c'est une histoire de la Terre avant tout, et pas vraiment encore une histoire du vivant. En tout cas, ça n'est pas une généalogie du vivant. En 1855, Alphonse de Candolle n'a pas encore franchi le pas de rompre avec le fixisme. Lorsque paraît L'origine des espèces en 1859, donc 4 ans après, il est convaincu, il est enthousiaste, et nous possédons sa correspondance avec Darwin. Darwin, de son côté, avait cité plusieurs fois Alphonse de Candolle dans L'origine des espèces. C'est un des auteurs qui apparaît le plus avec Hooker et Watson, et il est significatif que ce soit aussi des spécialistes de la géographie botanique. Et on perçoit en 1862, dans un article fondamental, qui n'est pas passé inaperçu, mais qui n'est pas très connu, qui s'appelle « Études sur l'espèce à l'occasion d'une révision des cupulifères ». Les cupulifères, c'est les châtaigniers, les hêtres, les chênes, nos actuels fagacés, quoi. Il prend la mesure de la diversité interne à chaque espèce. Il en tire argument pour relativiser la distinction entre espèces et variétés et s'attache ensuite à présenter au lecteur la théorie darwinienne. Pour lui, le problème n'est pas qu'il y ait de la variation. La variation, les formes nouvelles, les anomalies apparentes, les botanistes en voient peut-être pas tous les jours, mais bien fréquemment. Mais comment trouver une cause qui fixerait ces variations ? Darwin propose la sélection naturelle. Alphonse de Candolle l'accepte, moyennant quelques réserves sur l'ambiguïté du terme sélection, qui peut suggérer à tort une intention. Et là, il y a une discussion extrêmement fine, qui est bien dans la ligne très philosophique de Alphonse de Candolle, qui réfléchit sur l'emploi du mot nature, qui dit « Personnellement, j'évite toujours de dire la nature a donné à tel oiseau des ailes, mais je préfère dire tel oiseau a des ailes et de sorte que, etc. » De telle sorte qu'il s'ensuit telle et telle conséquence. Donc il y a une sorte de vigilance critique chez Alphonse de Candolle pour éviter de prêter des intentions à la nature. Paradoxalement, alors comme il est très très courtois et très admiratif sur Darwin, il dit, vous savez, en français, sélection, ça implique une idée d'intention. Bien sûr, avec selection, vous n'avez pas le problème. Ça laisse les anglicistes en général sceptiques. Mais en tout cas, c'est une manière polie de contourner la difficulté. En réalité, aucun spécialiste de Darwin ne considère que il y a dans le terme sélection une finalisation, il y a une analogie avec une pratique agricole, horticole, vétérinaire, la sélection faite par l'homme, et cette analogie a un rôle pédagogique ou un rôle heuristique, c'est-à-dire qui favorise la découverte. Elle n'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais il est certain que l'emploi du terme sélection, alors peut-être que s'il avait dit un triage, mais un triage c'est volontaire aussi. En tout cas, Alphonse de Candolle est convaincu par Darwin dans la mesure où sa théorie permet d'expliquer certains faits autrement inexplicables. Et parmi ceux-ci, on retrouve nos organes rudimentaires, inutiles à l'individu, tels que les ailes d'oiseaux qui ne volent pas, ou les aigrettes de graines stériles dans certaines fleurs. Plutôt que d'attribuer ces singularités à une force créatrice, aveugle ou capricieuse, la théorie de l'évolution permet de supposer que ces inutilités ou ces défectuosités d'organisation sont pour chaque être un héritage d'aïeux à qui elles profitaient dans des conditions d'organisation plus ou moins différentes, avec des ennemis différents ou dans des conditions physiques d'une autre nature. En définitive, il s'agit d'un ralliement circonspect, mais raisonné, d'un des maîtres de la géographie botanique à la théorie de l'évolution. C'est confirmé par un texte publié par Alphonse de Candolle en 1882, une sorte de grande notice nécrologique, où il raconte sa rencontre avec Darwin, à la maison de Darwin, à Down, près de Londres. Le texte est intéressant. Le public et beaucoup de savants qui ne sont pas naturalistes se trompent lorsqu'ils s'imaginent que le transformisme est une hypothèse. Il est un fait démontré. Les hypothèses portent sur les mécanismes de transformation, pas sur la transformation elle-même. Alors, il peut y avoir ambiguïté si on entend la notion de fait d'une manière trop naïve, qu'on la confond avec la vision, par exemple. Le fait, c'est toujours quelque chose de construit, mais construit par des théories établies, par la rencontre d'un grand nombre d'observations, par un travail sur le concept en même temps que sur les sensations. Si vous faites confiance à votre thermomètre le matin quand il vous indique la température, c'est parce qu'il y a derrière une théorie de la dilatation. Si c'était le caprice de votre thermomètre, vous n'y attacheriez aucune importance. Mais vous savez que s'il marque moins 5, tous les autres thermomètres bien faits selon les mêmes règles, appliquant les mêmes lois de la dilatation, les mêmes lois de construction, vont donner la même température. Et donc quelque chose d'aussi simple que la température, c'est un fait par construction intellectuelle, en même temps que la résistance du réel. Parce que, entendons-nous, le thermomètre n'indique pas la température qui vous ferait plaisir pour que votre théorie soit vérifiée. Le thermomètre, il est là, comme tout instrument bien fait, il ne dit pas ce que vous attendez qu'il dise et que vous aimeriez qu'il dise. Il dit ce que lui dictent les conditions du milieu. Mais il ne dit rien par lui-même. L'instrument ne pose pas les questions, c'est vous qui les posez et qui, du coup, choisissez tel ou tel instrument. Donc, il faut bien ne pas se méprendre quand on dit l'évolution est un fait. Ça ne veut pas dire on a vu se transformer les formes vivantes de l'origine jusqu'à nos jours. Ça ne veut pas dire c'est un constat empirique, c'est une sensation immédiate. Ça veut dire c'est une construction solide qui intègre observation, concept, hypothèses, vérifications, etc. Et puis après, il y a le domaine des hypothèses encore en concurrence. Et en 1882, la question était loin d'être résolue. Il y avait des néo-lamarckiens, il y avait des mutationnistes, et il y avait des darwiniens et des néo-darwiniens, etc. Conclure, eh bien, comme Cuvier avec la paléontologie, Augustin Pyramus de Candolle avec la géographie des plantes, apporte malgré lui de l'eau à la théorie de l'évolution, donc à une théorie à laquelle il ne croit pas. Alphonse de Candolle réunit dans son œuvre le moment de l'élaboration et le moment de la réinterprétation. Pas plus que l'évolution biologique, l'évolution des idées n'est écrite d'avance. C'est peut-être ce qui rend passionnant l'histoire des sciences.
Canal Académie vous présentait la conférence « Géographie des plantes et évolution des espèces » de Candolle à Darwin, animée par Jean-Marc Drouin, historien des sciences et professeur au Muséum. À la lumière des travaux de Darwin ou de Candolle, il évoquait les aptitudes de certaines plantes à vivre en certains lieux géographiques. Canal Académie vous invite à poursuivre ce voyage scientifique et biologique en écoutant sur notre site la conférence de Stéphane Schmitt intitulée « Anatomie comparée et transformisme, de Buffon à Darwin ». Vous apprendrez en quel point l'anatomie des animaux est proche de celle de l'homme. N'hésitez pas également à consulter le programme des futures conférences du muséum sur le site www.mnhn.fr.